Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Mark Zuckerberg est entendu aujourd'hui par une commission parlementaire américaine. Le patron de Facebook connaît bien l'exercice maintenant, mais cette fois-ci, il vient non pas justifier ce qu'il a fait, mais défendre un projet très ambitieux. La Libra, la monnaie numérique qu'il entend proposer à ses 2,5 milliards d'utilisateurs au premier semestre de l'année prochaine, est un projet qui commence à inquiéter et qui est même carrément dans le viseur de certains États, dont la France. Ils y voient une menace sur la stabilité du système financier et sur un pan entier et particulièrement important de leur souveraineté. Libra, est-ce que Facebook a les yeux plus gros que le ventre? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Odile Lakomski-Laguerre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en sciences économiques à l'université de Picardie, Jules Verne, et auteur du livre « Les institutions monétaires du capitalisme, pensée économique » de Joseph Alois Schumpeter. C'est aux éditions L'Harmattan. Et Gilles Babinet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président du Conseil national du numérique. Comment vous définiriez la Libra? Est-ce que c'est une monnaie comme le dollar ou l'euro, une crypto-monnaie comme le bitcoin? Qu'est-ce que c'est que ce projet, Odile Lakomski-Laguerre?
Alors, c'est pas vraiment une monnaie comme les devises officielles, dollars, euros, bien sûr, hein, puisque ça n'a pas du tout le même statut. Il n'y a pas d'État derrière. Mais ça peut potentiellement être une monnaie dans la mesure où les utilisateurs acceptent de payer en Libra sur les applications qui sont liées au groupe Facebook, comme WhatsApp, par exemple.
Messenger. Qu'est-ce que vous en pensez, Gilles Babinet? Est-ce que c'est un statut un petit peu bâtard, c'est ce projet?
Oui, c'est un projet qui a des caractéristiques hors normes à mains égards. C'est même pas une crypto-monnaie, c'est un système de paiement. Mais si vous voulez, la frontière entre système de paiement et monnaie est extrêmement étroite. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez établi le système de paiement, c'est extrêmement facile d'émettre de la monnaie.
Alors justement, pour bien s'entendre, une monnaie, ça veut dire qu'on peut créer de la monnaie, maîtriser la taille de sa masse monétaire, faire des prêts, des taux d'intérêt. Est-ce qu'on en est là, Odile Lakomski-Laguerre, ou est-ce que c'est simplement une conversion de monnaie existante?
Alors dans un premier temps, on n'en est pas à un système de crédit, de prêt. Je pense que dans une deuxième étape, il a plutôt ça en tête. Mais dans un premier temps, non, c'est vraiment simplement effectivement effectuer des paiements sur des applications liées à Facebook. Et il s'agirait effectivement... alors l'ambition de Mark Zuckerberg, c'est de créer un stablecoin. Alors sur une blockchain hein, quand même, donc ça ressemble quand même à une crypto-monnaie.
Vous allez traduire tout ça s'il vous plaît pour les...
Oui, ouais. Une blockchain c'est ce qui a été inventé avec le Bitcoin, c'est-à-dire un registre qui permet l'authentification, la validation des transactions et l'inscription de ces transactions dans l'histoire de tous les paiements. À la différence du Bitcoin, c'est pas une blockchain publique. Le Bitcoin fonctionne avec une blockchain publique, donc tout le monde peut accéder. Tous les gens qui participent au réseau peuvent accéder à l'histoire des transactions. C'est pas du tout le cas avec la Libra, puisque ce serait une blockchain qui fonctionnerait avec des nœuds qui sont ceux qui sont constitués par les principaux fondateurs de l'association, de la Libra Association.
Alors, Gilles Babinet, tout ça, c'est un petit peu technique. On va quand même parler peut-être un petit peu boutique. Cette Libra, c'est une association dont le siège est basé en Suisse et à but non lucratif officiellement. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ouais, c'est extrêmement malin, en fait. L'idée, c'était de créer à la fois un système qui ait l'air d'être inoffensif et en même temps dont la gouvernance finalement soit protégée de l'ingérence possible des régulateurs, et la Fondation Suisse c'est un bon truc pour faire ça.
Le truc c'est de faire une organisation internationale, en fait c'est l'idée, c'est
ça ressemble...
au même type que l'ONU,
oui,
le CIO.
Exactement, sauf que l'organisation internationale est généralement reconnue par les États. Là, c'est pas exactement le cas.
Ouais. Alors, la monnaie, c'est un élément de souveraineté des États, évidemment très important, hein, battre monnaie, prélever l'impôt, lever des armées, ça fait partie des éléments fondamentaux de la souveraineté des États. Mais il y a des économistes qui, depuis longtemps, ont imaginé des monnaies privées, comme Friedrich Hayek. Quel est l'intérêt d'une monnaie privée, Odile Lakomski-Laguerre?
L'intérêt d'une monnaie privée, c'est dans un cadre théorique qui considère que c'est le principe du marché qui prévaut sur le principe politique. Et c'est dans un cadre analytique qui considère que les marchés peuvent s'autoréguler et que les marchés sont capables de gérer un objet qui est la monnaie. Voilà, c'est le cadre théorique de Friedrich Hayek. Mais tout le monde n'adhère pas forcément à ce cadre théorique. Et voilà, c'est le seul intérêt. Il est tout relatif. Hein, c'est par rapport à une idéologie, une conception quand même très très libérale de l'économie.
Oui. Gilles Babinet, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus ?
Oui, en fait, je crois que décorréler la monnaie de l'acte politique, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire. On explique qu'en fait, c'est juste créer de la liquidité et notamment de permettre à tout un tas de gens qui n'ont pas aujourd'hui accès au système bancaire d'y accéder. Mais en réalité, vous avez une projection politique qui est extrêmement forte derrière ça. Et imaginez un instant que un acteur qui aurait la puissance de Facebook aurait un accès à un pouvoir qui est absolument impressionnant, ne s'en servent pas, c'est à mon avis être assez naïf.
Alors on va rebondir sur la première idée que vous avez évoquée. Dans un premier temps, Facebook est donc le premier réseau social de la planète avec quasiment 2,5 milliards d'utilisateurs entre ses différentes applications, ses différents services, a présenté cela comme un service inclusif, hein, comme on dit aujourd'hui, qui permettrait à ceux qui n'ont pas accès aux services bancaires traditionnels d'avoir accès au monde financier. Qu'est-ce que vous en pensez, Odile Lacomski-Laguerre?
Ce que je pense, c'est que c'est Facebook surfe sur un discours qui est extrêmement à la mode, c'est-à-dire celui de l'inclusion financière, d'imaginer des nouveaux modes de paiement qui permettraient d'inclure des volants de population extrêmement importants dans le monde qui n'ont pas accès à un compte bancaire. Alors, ça se fait déjà. C'est le cas de la monnaie mobile qui se développe en Afrique. C'est le cas aussi en Inde. C'est le cas dans certains pays du monde. Et ce qu'il faut savoir, donc, évidemment, ils surfent sur cette idée-là. Hein. C'est dans le livre blanc. Nous souhaitons proposer une monnaie pour tout le monde. Voilà. Donc, c'est un très très beau discours, très social. Mais effectivement, il faut pas être naïf du tout. Derrière ça, il y a des intérêts purement économiques. Il y a aussi des enjeux politiques. Il y a un véritable projet politique derrière tous ces gens de la Silicon Valley. Donc, il faut vraiment, vraiment, je pense, être très conscient de ce qu'ils sont et de l'idéologie qu'ils portent et de la culture qu'ils portent aussi. Ça, il faut vraiment s'emparer de ces questions-là. C'est très, très important. Et il y a aussi un rapprochement à faire qui est évident. Vous avez en ce moment tout un débat sur la disparition du cash. Je rappelle que le cash est encore la seule monnaie légale, donc qui fait ce caractère public, fondamentalement public, de la monnaie. Et si le cash disparaît, on va vers une privatisation totale de cet objet qui est public. Et derrière ces débats autour de la disparition du cash et de la promotion des instruments de paiement type monnaie mobile, etc., vous avez une association, une fondation qui s'appelle Better Than Cash Alliance, et vous retrouvez derrière cette fondation des gens comme Bill Gates, la femme de Bill Gates, PayPal, Visa, Mastercard, les mêmes qu'on retrouve dans l'association Libra.
Gilles Babinet, vous nous parliez tout à l'heure de projets politiques de très grande ampleur de Facebook. Est-ce que vous pouvez nous le détailler un petit peu ? Est-ce que, par exemple, l'objectif de Facebook, de ses administrateurs et de certaines multinationales en général, c'est d'affaiblir clairement les États?
Oui, enfin, c'est difficile d'être essentiellement manichéen dans cette affaire. C'est-à-dire qu'il est probable que l'initiative de Facebook puisse effectivement inclure des tas de gens qui sont en dehors du système bancaire. En fait, ils ont amené des services extrêmement sophistiqués, les réseaux sociaux à 2,5 milliards de personnes, dont beaucoup de gens qui sont dans les pays en développement, et je pense que c'est tant mieux. Et s'ils arrivaient à amener des services financiers, ça serait tant mieux aussi. Le problème, c'est de savoir mesurer le risque par rapport à l'opportunité. C'est très difficile de faire une conclusion ultime à cet égard, mais oui, dans le risque, il y a le fait que, par exemple, et ça n'est qu'un des exemples au board de Facebook, au conseil d'administration de Facebook, vous avez Peter Thiel. Peter Thiel, c'est un libertarien qui ne fait peu de mystère du fait qu'il souhaite abattre les États. parce qu'il considère, en étant très, il s'inspire de cette philosophe américaine Ayn Rand, qui est vraiment, je dirais, vent debout contre tout ce qui ressemble à une organisation institutionnelle. Et ils ont bien compris finalement qu'ils avaient entre leurs mains une puissance absolument extraordinaire. Ils touchent 2,5 milliards de personnes. Et c'est certainement beaucoup plus fort que le dollar lui-même. S'ils arrivent à faire en sorte que on se mette peu à peu à utiliser leur système de paiement, ils pourront émettre de la monnaie et ils auront la capacité de faire plier les États.
Que craignent les États ? C'est ça, c'est que tout un pan de l'économie mondiale leur échappe. Des taxes aussi, peut-être, Odile Lakomsky Laguerre, qui ne contrôleraient plus toute une partie du commerce mondial ?
Bah bien sûr, c'est-à-dire que si une partie des transactions leur échappe parce que ça ne passe pas par les monnaies régaliennes, enfin par les monnaies souveraines, mais évidemment ça échappe effectivement à une forme d'imposition sur les transactions. Donc, évidemment, c'est un pouvoir qui échapperait aux États. Ça peut mettre aussi en péril ou en tout cas menacer très sérieusement le système bancaire et lui faire une bonne concurrence. Et puis plus fondamentalement, je pense que les États sont en train de se rendre compte que ces GAFAM prennent énormément de pouvoir et que il y a quand même une menace aussi sur la souveraineté et sur le pouvoir politique.
La valeur principale d'un émetteur de monnaie, d'une banque centrale, d'un pays, et je parle sous votre contrôle, Odile Lakomsky-Laguerre, c'est au final sa crédibilité et donc la confiance qu'on lui accorde. C'est ça la valeur ultime d'une monnaie, en fait. Est-ce que Facebook, avec les affaires de gestion des données personnelles, est une organisation fiable à cet égard ? Gilles Babinet, peut-être.
Oui, la réponse est un peu dans la question. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il
y a eu beaucoup... C'est un petit peu orienté, je le reconnais.
Il y a eu beaucoup de scandales, Cambridge Analytica étant probablement celui qui est le plus visible. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'excuses aussi, et c'est une des raisons, et ça n'est pas la seule, qui fait que je crois qu'il ne faut pas accepter ce projet, parce que toutes ces failles montrent que la gouvernance de Facebook et son projet en tant que tel n'est pas stable. Voilà, et ça je dirais que c'est au-delà de l'aspect politique, c'est-à-dire que c'est simplement les risques inhérents au fait d'avoir une monnaie électronique qui pourrait être par exemple hackée, dont la stabilité ne serait pas forcément garantie. Là, vous parlez de confiance, l'une des formes de la confiance qui existe en la monnaie, c'est quand même une relative stabilité. Alors ça fluctue quand même beaucoup, et à mains égards, on ne devrait pas avoir confiance dans les monnaies émises par les grandes institutions.
Parce que eux, ils en créent de la monnaie, hein, ça veut dire qu'ils gèrent de l'inflation aussi.
Oui, on peut s'amuser à se faire peur, effectivement, surtout par les temps qui courent.
Absolument.
On voit qu'ils émettent beaucoup de monnaie, et on se dit, si un jour on devait rembourser tout ça, ce qui sera jamais le cas, c'est juste impossible. Et donc, d'ailleurs, Facebook a aussi, je crois, des cartes dans son jeu, en pouvant dire, mais écoutez... Je vois pas pourquoi vous leur ferez confiance dans ces conditions-là.
Aujourd'hui, Facebook et son patron Mark Zuckerberg ont entendu les inquiétudes et ils ont donc un nouvel argument. Défendre la place des États-Unis dans le système financier mondial, notamment face à la Chine qui a des projets dans le domaine des monnaies numériques. Qu'est-ce que vous en pensez, Odile Lakomsky-Laguerre ?
Ben, je crois qu'il est très malin, il est très stratégique. Hein. Il utilise les discours qui vont pouvoir faire mouche. Mais je pense que derrière ces discours qui peuvent à un moment donné séduire ou en tout cas amadouer, là il s'agit d'amadouer le régulateur, il le sait hein, de toute façon depuis le départ qu'il y aura une opposition très forte des régulateurs, donc il essaye d'amadouer progressivement. Il l'avait aussi dit très clairement que l'objectif était de discuter avec le régulateur et de pas aller à l'affrontement.
Cela étant, c'est vrai que la Chine a des projets dans ce domaine, Gilles Babinet ?
Oui, il y a un projet de crypto-monnaie d'État, entre guillemets, et c'est effectivement très malin parce que la portée de ce système est immédiatement globale. Donc vous êtes capable potentiellement de trouver des gens qui sont à l'autre bout de la Terre, qui ont envie de miser sur votre monnaie et qui se mettent à l'utiliser soit comme monnaie de réserve, soit pour faire des transactions. Et c'est l'expression même du pouvoir politique. C'est-à-dire que, pour moi, deux formes d'expression très régalienne des États, c'est la capacité d'émettre de la monnaie, effectivement, et puis c'est aussi la capacité de la défendre, d'avoir un système militaire qui puisse la défendre.
Alors, des acteurs importants du monde financier, Visa, Mastercard, se sont retirés du projet. Au départ, l'association, c'est 10 millions d'entrées, l'adhésion, le 10 millions de dollars, le ticket d'entrée. Ça signifie quoi? Qu'il commence à y avoir une petite méfiance, et puis on se rend compte que peut-être il faut pas trop déplaire aux États à qui ça déplaît, Odile Lacomski-Laguerre?
Oui, je pense que c'est ça. Bon, déjà, le projet n'est pas encore implémenté techniquement. Donc
il y a, oui, encore... est en construction, hein,
voilà. Bon, il est en construction, donc il faut que ça fonctionne, mais je pense que c'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est que effectivement je pense que les gros acteurs voient une levée de bouclier très importante des régulateurs, ce qui n'avait pas été forcément le cas avec le Bitcoin, mais le Bitcoin n'avait pas la même force de frappe. Donc là je pense que oui c'est ils sentent que c'est compliqué et que il vaut peut-être mieux se retirer avant d'avoir de vrais problèmes ou des obstacles plus importants.
Gilles Babinet, vous diriez que Facebook commence à inquiéter, à faire peur, avec sa taille critique, voilà, c'est tout simple.
Oui, c'est pas nouveau. Enfin, je veux dire.
Non, mais là, est-ce que voilà, et ça attaque quelque chose de.
Le Libra n'est qu'une une brique de plus dans le dossier de, je dirais, des griefs qu'on pourrait avoir à l'égard de Facebook. D'ailleurs, objectivement, beaucoup d'acteurs sentent qu'il y a un réveil des régulateurs, des pouvoirs politiques. Quand vous parlez de Mastercard et de Visa qui se retirent, ils ont très explicitement reçu des menaces des régulateurs. Ils ont dit, écoutez, si vous continuez, si vous persévérez dans cette alliance, on viendra vous chercher des noises, et c'est pour ça avant tout qu'ils se sont retirés.
Est-ce qu'il faut envisager, et la question se pose, elle est posée depuis plusieurs semaines, et elle est dans l'air, et d'ailleurs Mark Zuckerberg l'a lui-même envisagé, est-ce qu'il faut envisager de démanteler Facebook, Odile Lacomski-Laguerre?
Oui, moi je pense qu'il faudrait démanteler ces géants, oui.
Oui, enfin, si vous voulez, encore une fois, moi j'essaie d'éviter de parler de façon passionnelle, parce que je me suis exprimé là-dessus, je pense que j'étais un des premiers à dire qu'il fallait démanteler Facebook, mais si vous voulez, aujourd'hui on ne voit que les travers de ces plateformes, donc le hate speech, les paroles de haine qu'il faut réguler, tout ce qui est les atteintes à la démocratie, etc. Mais si vous voulez, moi je connais des tas de gens qui ont rencontré leurs femmes sur les réseaux sociaux, qui s'en servent tous les jours pour des tas de choses. Et il faut avoir ça à l'esprit malgré tout. L'inclusion financière, c'est pas une petite chose. C'est potentiellement tout à fait extraordinaire. Et puis c'est une nouvelle forme d'économie, et c'est une forme d'économie qui a des intérêts. Le vrai sujet, je pense, c'est de trouver là où vous commencez à être dans une situation de domination et où ça devient problématique. Donc je dirais que je voudrais pas être trop jargonneux, mais il y a un moment où vous commencez à rentrer dans ce qu'on appelle les rendements croissants, où finalement, plus vous grossissez, plus vous commencez à gagner de l'argent. Et puis il y a un moment où vous commencez à avoir une capacité de domination qui est totale. Je pense qu'il faut réussir à faire exister les plateformes entre ces deux extrémités. Et c'est certainement une taille beaucoup plus petite que celle auxquelles sont parvenus les fameux GAFA.
Est-ce que c'est possible? Est-ce que les États, au premier chef, les États-Unis, ont encore la force et les moyens démanteler, d'arrêter ces plateformes?
Il n'y a aucun doute que ça arrivera.
Il faut du courage politique. C'est exactement comme avec le système bancaire à l'heure actuelle. On a laissé les banques grossir. C'est un phénomène assez naturel dans une logique très concurrentielle. On a dérégulé à partir du milieu des années 80 le système financier, le système bancaire. Les banques, pour atteindre une taille critique et survivre face à cette concurrence, ont grossi. On se retrouve avec des banques, on sait très bien, trop grosses pour faire faillite. Il est aujourd'hui extrêmement difficile de les réguler.
Merci Odile Lacomski-Laguerre, merci à vous Gilles Babinet d'avoir participé à cette émission, d'être venu jusqu'à nous. Merci à toute l'équipe du Débat du Jour, Florence Ponce à la coordination, Gérard Perrault à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vaner et Laurent Baudouin. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat sur les réseaux sociaux. Prochain débat, demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.